Parmi les auteurs invités du Festival des écrivains qui a eu lieu à Prague du 16 au 23 avril dernier, il y avait aussi le poète belge Werner Lambertsy. Dans un entretien accordé à Radio Prague, le poète né dans un milieu néerlandophone a évoqué ses origines et a expliqué sa décision d'écrire en français. Grand voyageur, il a parlé aussi de ses inspirations orientales. Václav Richter vous propose maintenant la seconde partie de cet entretien.
Rencontre littéraire. Werner Lambertsy est un poète qui refuse de respecter les frontières entre les gens et entre les civilisations. On dirait que l'Occident et l'Orient se tendent la main dans son œuvre. Dans la seconde partie de l'entretien pour Radio Prague, Werner Lambertsy développe son idée sur les aspects communs de la pensée des mystiques européens et de l'univers spirituel des penseurs de l'Orient. Il estime que le discours des penseurs orientaux est souvent très semblable à la pensée européenne et constate que ces penseurs parlent du néant, du vide, du manque, de la méfiance qu'ils ont de la parole écrite. Ces thèmes, selon Werner Lambertsy, étaient également chers aux mystiques du vieux continent. Le poète trouve donc une sorte de fraternité d'idées et de sentiments avec ces gens d'Orient. Sans être orientaliste, il se sent chez lui en leur compagnie.
Je suis désolé, mais c'est pas un hasard si en Inde, les meilleurs spécialistes de l'informatique, ce sont des Indiens. Tout est prévu dans les Upanishads. Vous ouvrez les Upanishads et vous avez l'informatique qui est là. Tous les astrophysiciens avec qui je suis très ami, français en tout cas, j'adore des gens comme Luminet, comme Michel Cassé, comme Klein, c'est des gens que je lis beaucoup. Reeves aussi, enfin un peu moins, mais ce sont des gens que je lis beaucoup. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que dans les grands textes, c'était là. Non seulement c'était là dit autrement, un peu comme la chimie était dans le chimie, si on veut, mais c'était dit. Mais non seulement ça, la première fois que j'ai entendu Michel Cassé à une conférence où il parlait de l'astrophysique, il disait « Je ne peux rendre compte avec exactitude de l'état de mes recherches scientifiques qu'en parlant en langage poétique. » C'est le seul qui puisse encore couvrir à peu près les réalités avec lesquelles je suis affronté tous les jours.
Maintenant, vous vous trouvez à Prague. Et qu'est-ce que cette culture, la littérature et la poésie d'Europe centrale, disons, représentent pour vous? Est-ce qu'elle a joué un rôle dans vos inspirations?
Oui, mais c'était assez difficile parce qu'on avait un accès assez... Enfin, c'était assez compliqué d'avoir un accès véritable. On avait bien une parole officielle qui arrivait, mais enfin, on n'était pas très à l'aise avec ce qu'on entendait. Alors, les premiers qui m'ont vraiment surpris, ce sont les poètes d'Allemagne de l'Est, mais que des gens de l'Allemagne de l'Est m'ont apporté. On dit, mais c'est formidable. On ne parle pas de ces gens-là. Et il y a des poètes fabuleux, enfin vraiment fabuleux. Donc j'ai commencé à, dans les années, mais tard, hein, dans les années 80, à découvrir la littérature de l'Allemagne de l'Est, etc. Et puis petit à petit, alors, je ne vais pas quand même parler de Prague en disant « Oui, j'ai lu Kafka, oui, j'ai lu Rilke, oui, j'ai lu... » Bon, d'accord, j'ai lu Kepler aussi. Ce serait idiot. Je n'ai pas une sensation véritable de ce qu'était la littérature. Mon traducteur en tchèque, c'était Jan Hrubeš, qui était le traducteur de Seyfert dans l'autre sens. Bon, par lui, j'ai su un peu Seyfert, j'ai su un peu Roland. J'étais très admiratif. Mais je n'avais pas le contexte. Peut-être que je n'avais pas encore assez souffert non plus. Allez savoir, parce que la souffrance qu'il y a là-dedans, c'est quand même... Il faut la sentir, enfin. Alors plus tard, j'ai mieux compris. Quand j'ai pu aller dans d'autres pays qui avaient souffert de dictatures fortes, et quand je suis allé en Albanie, par exemple, et quelqu'un m'a dit, si tu n'as pas vécu 30 ans, là, tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas. Il faut avoir été dedans pendant longtemps. Il faut presque être né dedans. Et là, je peux te parler. Sinon, tu seras toujours loin de ça. Ils ont raison. Je sens bien la souffrance, mais c'est comme quand mon enfant a mal. Il dit j'ai mal, mais j'ai mal comment? On peut pas dire jusqu'où ça fait mal comment. Beaucoup, très beaucoup, comme dit mon fils. Énormément, ça veut rien dire.
Vous avez parlé de votre traducteur Jan Rubeš. Quelles œuvres de vous ont été traduites en tchèque?
Là, c'était pas des livres. Hein. En tchèque, c'était des poèmes qu'il a mis dans des revues. Donc, mais ça remonte à 75. Puis Jan Rubeš est devenu professeur d'université à Bruxelles et on s'est perdu de vue. En fait, de livres tchèques, ça va être le premier. En revanche, j'en ai trois en Roumanie, j'en ai un en Slovaquie, j'en ai deux en Bulgarie, j'en ai deux en serbo-croate. La Tchéquie fait un trou.
Il y a donc un livre de vous qui a été traduit déjà et qui sera publié.
Il va sortir en octobre.
Est-ce que vous pourrez le présenter?
Oui, alors c'est Coimbra, qui a comme sous-titre l'Antiphonaire d'Orphée. Dans le grand livre, hein, l'Antiphonaire d'Orphée. Et c'est l'histoire, effectivement, quand j'étais à Coimbra, juste à la révolution des œillets, juste après, hein, j'allais voir un ami qui était en prison, mais du bon côté. Mais bon, c'était un général dont on se méfiait un peu parce qu'il était très communiste. Et moi, j'étais de gauche, bien sûr. Donc j'allais le voir, mais dans un contexte très différent. Et je me retrouve dans un pays encore en danger, en plein risque, en pleine effervescence, dans un pays que je trouve extrêmement poétique, parce que la littérature portugaise est une merveilleuse littérature, très proche de la Belgique. C'est deux petits pays, hein, qui ont eu des grands continents à l'extérieur, etc. Donc je me sentais très portugais, et j'allais voir Torga, Michel Torga, qui a eu cette phrase extraordinaire, l'universel, c'est le local sans les murs. C'est un de ses titres, c'est magnifique. Donc j'allais voir Michel Torga à Coimbra. Et Coimbra, c'est une colline. Et au bas de la colline, il y a une petite église gothique du XIIIe siècle qui s'enfonce dans le sable. C'est plus une église, hein. On peut toucher le plafond avec la main, il n'y a plus de vitraux, il n'y a plus de portes. Enfin, mais c'est quelque chose de surprenant parce qu'elle s'enfonce sans se briser. Tous les bâtiments qui s'enfoncent se cassent. Elle, non. Donc il y a quelque chose de miraculeux. Et tous les jours, le soleil descend la colline et tombe sur la petite église. Je dis, c'est Orphée qui va rejoindre Eurydice, qui va rejoindre les morts. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est un peu mon obsession, hein, c'est il faut tout recommencer tout le temps. Donc, Orphée, tous les jours, remonte sur la colline, comme Sisyphe, et redescend chercher Eurydice, et ça rate tous les jours. Mais néanmoins, ça continue. Donc, tous les jours, le drame d'Eurydice et d'Orphée se poursuit, se termine mal et bien, à la fois. Et donc, c'est un livre sur la modernité. Ça parle des banques, des bourses qui sont meurtrières, qui tuent et affament des peuples entiers. Ça parle de la publicité qui nous bouffe la tête. Ça parle de ces choses-là, qui sont a priori pas tellement poétiques, comme diraient certains, hein, mais qui, pour moi, sont de la poésie pure. Hein. Et en même temps, ça parle du mythe éternel d'Orphée, d'Eurydice, et de qui je suis, et de la femme dont je suis amoureux, que j'avais avec moi à Coimbra. Et quand nous reviendrons, nous aurons eu un enfant. Nous avons fait à Coimbra.